Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai tourné une émission avec un auteur de bande dessinée sur les toits de Notre-Dame de Paris. Et comme toutes celles et ceux qui l'ont déjà gravi, je me suis senti non seulement tout petit, mais médusé aussi. Comme changé en pierre, à l'image de ces gargouilles et autres chimères, la vue de Paris, la hauteur, la grandeur de cette vieille reine de nos cathédrales, comme l'écrivait Hugo, et qui prenait soin, Hugo, de préciser toujours les cicatrices de Notre-Dame, ses rides, ses traces de destruction, ses mutilations. Et il se trouve que je suis remonté la semaine dernière tout en haut de la cathédrale, la veille de mes 40 ans, c'était mon cadeau d'anniversaire, et même un peu plus. L'homme qui nous accompagnait, André, qui y travaille et que je salue ce matin de toute mon amitié, m'a permis d'effleurer une chimère. Et je me souviendrai toute ma vie, je crois, de ma stupeur quand j'ai senti la pierre s'effriter à ma simple caresse. « C'est du sable, m'a-t-il dit, ça tombe, ça se casse, ça part en ruine en un rien de temps. » Et cette pierre qui s'effritait entre mes doigts, c'était le signe de l'insupportable fragilité de cette reine qui me semblait pourtant ancrée dans son passé, vouée à l'éternité. Quand je l'ai vue s'embraser hier, j'ai pensé aux pages de Victor Hugo que nous a lues Guillaume Gallienne ce matin, j'ai pensé au romantisme de Quasimodo aussi pour qui la cathédrale, vous vous souvenez, n'est pas seulement la société, mais toute la nature et l'univers. Et puis j'ai aussi pensé à ces morceaux de pierre qui m'ont filé entre les doigts au toucher d'une chimère.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, c'est la force, la fragilité de nos monuments. Il est un ancien ministre de la Culture, l'un de nos plus grands, l'actuel directeur de l'Institut du Monde Arabe. Il sera accompagné par les voix d'autres invités ce matin dans Boomerang. Bonjour Jacques Lang.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Dans quel état est-ce que vous êtes ?
Hier soir, j'étais, comme beaucoup d'autres, choqué, saisi d'effroi. D'autant plus que, au moment où les flammes se sont emparées de Notre-Dame, je visitais avec des amis venus des différents pays arabes l'exposition « Foot et monde arabe ». Et tout à coup, un ami me transmet un message en me disant « Notre-Dame en flammes ». Je ne parviens pas à y croire. Quelle mauvaise farce. Et nous grimpons en haut sur la terrasse et nous découvrons ce spectacle, si j'ose dire, monstrueux. Nous étions incrédules. Ce qui, dans l'instant, m'a beaucoup touché, c'est évidemment le Notre-Dame. Et les personnes autour de moi, qui étaient là, venant de tous les horizons géographiques, appartenant à toutes les religions, il y avait aussi un rabbin, et qui tout était pris par la même émotion, la même ferveur, la même colère intérieure et le même espoir. C'était, dans l'horreur, la tristesse, l'effroi, un moment de grande beauté morale.
Hier, les Parisiens et les télévisions du monde entier, les Français aussi, ont assisté à l'embrasement puis à l'écroulement de la flèche construite par l'architecte Viollet-le-Duc qui avait mené au XIXe siècle de grands travaux de rénovation. Non sans scandale, cette flèche, Jacques Lang, elle n'est pas sans histoire, elle sera reconstruite.
Naturellement, oui. Bon, la première flèche, si j'ose dire, datait du XIIIe siècle. Elle avait été détruite au moment de la Révolution. Et Viollet-le-Duc, ce restaurateur un peu étrange,
fantasque,
parfois, fantasque et imaginatif, et qui disait d'ailleurs que restaurer, c'est rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé.
Vous partagez cela pour la reconstruction
pour la flèche, oui. Nous ne sommes pas contraints par le XIIIe siècle. Peut-être qu'il faut essayer de retrouver l'esprit de Viollet-le-Duc. Mais à mon avis, enfin je suis même certain, on reconstruira cette flèche. On reconstruit bien une flèche qui a été détruite par l'orage à Saint-Denis.
On nous dit que ces travaux prendront énormément de temps. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Je récuse cette appréciation.
Vous récusez ?
J'entends dire des générations, pourquoi pas des siècles. Non ! On dit que Notre-Dame, c'est un monument d'exception, alors il faut ouvrir un chantier d'exception. On l'a fait naguère pour Strasbourg, la cathédrale de Strasbourg. Les Strasbourgeois n'avaient jamais vu, pendant un siècle, enfin, si, la plupart des Strasbourgeois, disons, n'avaient jamais vu la façade occidentale, parce que les échafaudages, parce que les guerres. Et nous avons décidé en 82 de faire, là encore, un travail d'exception, et en 3 ans, nous avons pu la restaurer. Voyez le Louvre. qu'on a évoqué récemment. C'est un immense palais. Nous avons restauré le Louvre en 3 ans. Voyez les Invalides, la dorure des Invalides. Nous voulions, avec François Mitterrand, que pour le bicentenaire de la Révolution française, on puisse offrir à nos visiteurs un dôme redoré. Et ce fut fait en 9 mois.
Quand on veut, on peut, Jacques Lang. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui, ce matin, à l'antenne. Et c'est assez fort. Notre-Dame, trésor national, comme le propose l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon.
Il est trésor national, il est trésor mondial même. Simplement, j'aime beaucoup Jean-Jacques Ayagon, mais on va pas encore créer une fiscalité.
Quand vous commencez par j'aime beaucoup,
je l'aime vraiment beaucoup. Mais simplement, il annonce qu'il voudrait une nouvelle fiscalité. Non, parce que la fiscalité qu'il propose, ça revient à faire payer par l'État les contributions des donateurs. Il faut que l'État donne l'exemple. Il faut dégager des crédits d'exception. Il faut que le président annonce un chantier d'exception pour un monument d'exception. Il faut s'imposer aussi un délai d'exception. Si vraiment les paroles ont un sens, si vraiment les émotions ont une portée, il faut ici et maintenant engager, après expertise naturellement, examen par les scientifiques, les travaux que mérite Notre-Dame.
Il se trouve que vous-même, Jacques Lang, alors que vous étiez ministre de la Culture, vous avez entrepris des travaux de rénovation de la cathédrale. Quel enjeu est-ce que c'est la défense et la préservation de ce patrimoine pour un ministre de la Culture, précisément? Et de quoi s'agissait-il?
D'un immense bonheur. Pouvoir rajeunir ou redonner vie à un monument comme celui-là, rien n'est plus... vous remplit davantage d'ivresse. Et à l'époque, Monseigneur Lustiger aimait d'un amour incroyable ce monument qu'il protégeait. Et avec lui, nous avons imaginé un plan de restauration pour toute la façade que vous voyez à peu près protégée aujourd'hui, la façade occidentale. Et surtout, nous avons eu à cœur de restaurer la plus célèbre grand orgue du monde, l'unique grand orgue du monde qui, je l'espère, n'a pas été atteint par les flammes.
On va conclure ce journal en nous rendant à Notre-Dame où l'informatique s'est mise au service de la musique liturgique. À la demande de Jacques Lang, le grand orgue a été restauré. 2 ans de travail pour apprécier encore davantage Bach et Brahms.
Monsieur le cardinal, j'ai le plaisir de vous remettre solennellement, monsieur le cardinal, les clés de cet orgue. De tout mon cœur, je souhaite qu'à présent, sous votre haute direction spirituelle, ces orgues retentissent pleinement sous les voûtes de la cathédrale de Paris. Et je vous remets par conséquent ces clés.
C'est un moment très fort, évidemment, Jacques Lang, le 6 décembre 1992, lorsque les clés de l'orgue de Notre-Dame sont remises au cardinal Lustiger, auquel on pense, évidemment, à leur archevêque de Paris.
Et les clés, ce n'était pas les clés au sens où on les entend, c'était une carte informatique, puisque nous avions réussi, grâce à la bonne volonté des uns des autres, à restaurer ce grand orgue, à la fois par l'appel aux artisans d'art et à des techniciens de l'informatique, et qui ont permis à cet orgue de retentir de 1000 sons, de 1000 nuances. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu 50 000 personnes qui sont venues entendre les premiers concerts.
Comment ne pas penser à tous ces souvenirs qu'on a tous liés à Notre-Dame? Et vous, en tant qu'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, vous en avez des souvenirs, et pas des moindres. Moi, pour ma part, je pense tout de suite au Kaddish, lors de l'enterrement du cardinal Lustiger, justement, en 2007. Ce Kaddish, lui qui était un juif converti devant Notre-Dame, ce qui dit aussi quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus universel, évidemment, que la religion catholique. Chez vous, il y a d'autres souvenirs. Je pense aux larmes d'Helmut Kohl à l'enterrement de François Mitterrand, le 11 janvier 1996.
Oui, c'est vrai, ces larmes ont touché le cœur de beaucoup de gens, et souvent l'image est reproduite à la télévision. Dans le même temps où les funérailles de François Mitterrand se célébraient à Jarnac, les chefs d'État du monde entier étaient réunis à Notre-Dame. C'était Monseigneur Lustiger qui assurait l'office, et Kohl, qui était lié d'une amitié intime, forte, puissante avec Mitterrand. Ils avaient ensemble redonné à l'Europe un élan, ils avaient ensemble conçu cet euro qui aujourd'hui est devenu notre monnaie commune. Alors c'était vraiment touchant.
Notre-Dame en est aussi le symbole.
Notre-Dame en est aussi le symbole. C'est un endroit de vie, de spiritualité. C'est un lieu où l'Europe respire à plein poumon.
Et puis un autre souvenir que vous m'avez confié, c'est Gérard Depardieu, lisant les Confessions de Saint-Augustin en 2003. Gérard Depardieu qui disait « Gardez-vous des querelles et des jalousies ». Gérard Depardieu qui lisait Saint-Augustin « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors et c'est au-dehors que je te cherchais ».
C'est un texte assez sensuel, j'ose dire, et dit par Depardieu. C'était un texte qui nous plongeait dans une sorte d'ivresse, et dans la cathédrale, à Notre-Dame.
C'était à l'occasion de l'année de l'Algérie en 2003, Jacques Long.
Ben voilà, et en même temps, vous l'en faites entendre aujourd'hui pour célébrer Augustin, qui a eu 40 ans récemment.
Alors c'est pas du tout le lieu, Jacques, mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir quand même. J'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on parle un peu plus précisément d'architecture et des enjeux auxquels vont devoir se confronter les générations à venir. Nous sommes en ligne avec François Goven, l'inspecteur général des monuments historiques, ancien directeur du service des monuments historiques au ministère de la Culture. Bonjour François Goven.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a beaucoup parlé de la structure de la cathédrale. Qu'est-ce qui en faisait la spécificité de cette charpente, précisément, qu'on appelait la forêt?
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la structure de la charpente elle-même qui est une des rares structures encore en place médiévale. La plupart des charpentes de grandes cathédrales ont brûlé dans le courant de l'histoire. Et puis par ailleurs, il y a la structure en pierre en dessous et qui d'une certaine manière a admirablement résisté puisque même si la voûte a été en partie percée, les grands éléments de cette structure, les grands arcs et les voûtes pour l'essentiel ont résisté.
Et c'est une question qu'on se pose effectivement. Est-ce qu'il y avait des failles à Notre-Dame liées à son grand âge, François Goven?
Non, pas particulièrement. D'abord, il faut, comme je le disais, resituer cela dans l'histoire. Quand on regarde toutes les cathédrales de France, mais pas seulement de France, mais pour ne parler que de la France, toutes les grandes cathédrales ont vu, malheureusement, c'est horrible, mais leur comble brûlé, la cathédrale de Strasbourg, la cathédrale de Metz, la cathédrale de Chartres. Donc, hélas, il n'en reste plus beaucoup d'origine, et c'était la caractéristique de Notre-Dame. Mais de défaillance, évidemment, il y en a eu, nécessairement, puisqu'il y a eu ce sinistre. L'enquête en déterminera les causes, mais c'était un endroit qui était surveillé, qui faisait l'objet de protocoles de sécurité, et les travaux eux-mêmes qui étaient en cours sont très 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 surveillés sur ce plan-là, notamment par exemple par le fait qu'il y a la nécessité, chaque fois que l'on utilise un chalumeau, de délivrer un permis de feu. Malheureusement, il y a eu une faille puisque l'incendie s'est déclaré.
On le disait tout à l'heure, le président de la République a assuré que Notre-Dame serait reconstruite. Que représente un chantier comme celui-ci en termes de temps, ne serait-ce que pour avoir une estimation?
Alors la temporalité, elle est complexe parce que j'ai envie de dire, il y a peut-être quatre temporalités dans une affaire comme celle-là. Il y en a une de quelques jours, c'est celle du travail des pompiers qui a été admirable et qui est en train de se terminer, il ne l'est pas encore. Il y a ensuite une temporalité de quelques semaines qui va être celle de la consolidation de l'édifice parce que si les voûtes et les structures sont encore en place, elles sont évidemment, c'est pas encore, le diagnostic n'est pas fait, mais elles sont forcément fragilisées. Ça, ce sont quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, il y a le temps du projet, qui va prendre un certain temps, probablement peut-être un an ou deux ans, pour définir exactement le projet qui doit être mis en place pour reconstruire. Et puis ensuite, il y a la temporalité de la construction, qui elle sera surtout liée à la question du financement, et ça, c'est au moins 10 ans.
Alors, précisément, en termes de savoir-faire, parce qu'il faut en parler aussi, quel savoir-faire va-t-il falloir déployer pour mener à bien cette reconstruction? Et François Goven, rassurez-vous, ces savoir-faire existent encore, et nous pouvons les proposer.
Oui, ces savoir-faire existent. D'ailleurs, dans un passé qui n'est pas si lointain, on se souvient pour beaucoup de la grande tempête de 1999, qui avait détruit un nombre extrêmement important de monuments historiques, puisque c'était plusieurs centaines de monuments historiques en France qui avaient été dénaturés ou détruits. La cathédrale de Rouen, d'ailleurs, avait vu l'un de ses clochers en fonte s'effondrer, traverser la voûte, et donc détruire la voûte de la cathédrale de Rouen. Bon, aujourd'hui, 20 ans plus tard exactement, plus rien ne se voit de ces drames qui était peut-être symboliquement un peu moins important, mais en quantité qu'il l'était plus. Et à ce moment-là, comme aujourd'hui, il y a eu les savoir-faire, les techniciens, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs, et ensuite, évidemment, les entreprises. Alors, vous posiez la question, quelle spécialité? Eh bien là, ça va être tous les corps d'État qui vont être mobilisés, puisqu'il y aura des charpentiers, des couvreurs, des maçons, des tailleurs de pierre, et puis, on ne sait pas quels sont les dommages aux éléments soit décoratifs comme les vitraux, soit l'orgue, soit un certain nombre d'autres décors, tableaux par exemple. Donc ça veut dire que c'est toute la communauté des spécialistes du patrimoine qui sera mobilisée à cette occasion.
Merci pour ces éclairages, François Goven, inspecteur général des monuments historiques, ancien directeur du service des monuments historiques au ministère de la Culture pendant 7 ans. Jacques Lang, vous êtes notre invité ce matin également. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans ce qui vient d'être dit, qui retient votre attention?
Tout ce qui a été dit est parfait, évidemment. C'est un grand spécialiste que vous avez interrogé. J'ajouterai quelque chose sur la charpente. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste. C'est que, malheureusement, on ne pourra pas retrouver le bois, la qualité du bois du XIIIe siècle. C'est impossible pour des raisons physiques liées aux forêts, à la façon de découper les choses. Donc, il va falloir inventer un autre bois ou un substitut. Et de ce point de vue-là, les scientifiques apporteront, je pense, des solutions intelligentes, mais qui ne seront en aucun cas, à mon avis, la reproduction de l'ancienne charpente dans sa matérialité. Dans sa forme, oui, mais pas dans sa matérialité.
C'est une perception et une conception de la restauration telle que l'envisageait Viollet-le-Duc, précisément.
D'une certaine manière, oui, sauf que on préservera, j'imagine, le dessin, la structure, l'architecture, alors que Viollet-le-Duc se permettait quelques fantaisies.
Ce qui est quand même assez passionnant, et ce qui rend cette destruction partielle d'autant plus tragique, c'est que cette cathédrale, elle a survécu à tout, survécu au pire, et notamment
aux guerres.
À plusieurs guerres. Quel témoin de notre histoire nationale est-elle pour vous, Jacques Lang? À quoi a assisté Notre-Dame? Qu'a-t-elle vu?
Elle a vu d'innombrables moments, et en particulier puisqu'on parle de guerre, on ne peut pas ne pas penser à l'entrée du général de Gaulle, à la libération. Et finalement, c'était une cérémonie laïque, c'était la libération du pays, la libération de quelles que soient les opinions politiques ou religieuses. De Gaulle était là à Notre-Dame et c'était un moment fort et puissant.
C'est ça qu'elle nous dit, Notre-Dame, elle nous dit notre histoire, Jacques Lang.
Ben, inévitablement, elle nous dit notre histoire, puisque c'est quand même en France, dans Paris, le plus beau, le plus ancien, le plus symbolique, le plus emblématique des monuments.
Et
tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure les larmes de Cole, mais ces chefs d'État, quelle qu'ait été leur appartenance religieuse ou politique, étaient rassemblés en ce lieu, tout à coup devenu le lieu de la spiritualité mondiale.
On va en reparler, évidemment, de Notre-Dame, juste après une chanson, tiens, parue à titre posthume, une chanson de Charles Trenet qui regrettait, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ne pas pouvoir y chanter dans l'église. C'est à la fois un testament et une déclaration d'amour en creux que ce vibrant « Je n'irai pas à Notre-Dame ». Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Boomerang et cette cathédrale. Moulin.
Je n'irai pas à Notre-Dame chanter mes petites chansons, chanter les poètes et leur âme si près de Dieu dans sa maison, évoquer mes jeunes années, fond Romeux et son ermitage, et vous montagnes Pyrénées qui faisiez partie du voyage. Je n'irai pas chanter la mer, est-ce vraiment un scandale de la faire danser en l'air aux voûtes d'une cathédrale? La chose est-elle défendue d'évoquer Paris gris et bleu et ma vieille maman perdue dans son pavillon de banlieue? Défendue, amour de naguère, qu'en reste-t-il donc à présent? Souvenir des années de guerre d'un cœur qui fut adolescent. Défendue alors la cadence d'un paisible et tendre refrain, mélodie de la douce France, de ses villages riverains, de ses campagnes émerveillées au son des cloches du printemps et de Pâques émerveillées depuis longtemps, 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 de la foule des grandes villes qui ce jour-là vit dans l'espoir de lendemain joyeux, tranquille, au coin d'une rue où on peut voir. Couplets légers qui nous redisent que la terre est si près du ciel. Ils ont leur place dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Gabriel. Ils ont leur place au bout du monde, où le monde les a chantés. Quand parfois, à une seconde, un miracle les a portés. Ils ont leur place dans nos rêves, les plus purs et les plus certains. Ils viennent enrichir la serre qui fait refleurir nos matins. Ils ont leur place où l'amour chante, où la haine est vaincue par eux. Car au fond, les choses méchantes naissent du mal des malheureux. Alors pourquoi donc les combattre sans le moindre petit crédit? L'église n'est pas un théâtre, oui, mais on chante au paradis. Je n'irai pas à Notre-Dame, je n'ai pas l'autorisation. Ai-je bien mérité le blâme d'offrir à Dieu quelques chansons? Merci mon Dieu.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est Notre-Dame, l'invité spécial de cette matinée suite à l'incendie qui l'a ravagé hier soir. Jacques Lang, vous êtes avec nous. Vous n'êtes pas né à Paris, vous n'avez pas grandi dans l'ombre de cette cathédrale. Pour autant, pour l'enfant que vous étiez, quelle place Notre-Dame tenait-elle dans votre imaginaire?
C'était évidemment Victor Hugo. Ce n'est pas très original, mais c'était Victor Hugo qui, d'ailleurs, avait imaginé un incendie de Notre-Dame.
Bien sûr. Hein, c'est la page, d'ailleurs, que nous a lue ce matin Guillaume Gallienne, si forte de Notre-Dame de Paris.
J'étais pas assez attentif, pardon.
Et c'est bien dommage, Jack, je plaisante.
Voilà, ça m'arrive quelquefois d'être dispersé.
C'est un lieu qui vous faisait rêver, Notre-Dame.
Absolument, bon, ça occupe le rêve, l'imagination, c'est très présent dans la littérature, oui, bien sûr.
Et alors, quand vous êtes arrivé à Paris, et vous avez vu Notre-Dame pour la première fois, on a pour beaucoup un souvenir de l'avoir vue une première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Bon, c'est Notre-Dame, et aussi, pour moi, j'aime les êtres humains. J'aime les monuments, bien sûr, mais j'aime les êtres humains, et c'est souvent un regard. Quelqu'un que l'on, dont le regard se croise avec le vôtre, et un instant, c'est un moment d'éternité. Un regard, pour moi, c'est un moment d'éternité.
Qu'est-ce qui retenait tout de suite votre attention? Qu'est-ce qui retient encore votre attention dans ce monument?
Peut-être, à ces époques-là, je dirais, l'incroyable finesse des sculptures. Aujourd'hui, ce qui me passionne davantage, ce sont les grandes lignes. Comment Notre-Dame s'inscrit dans l'espace. Et puis, je répète, j'ai ce privilège d'être à l'Institut du Monde Arabe, et tous les jours, j'ai ce bonheur, du haut de la terrasse, de contempler la façade orientale qui a été en partie brûlée hier. Et quand les visiteurs viennent, je leur dis, cette façade, vous ne la voyez pas habituellement, vous regardez l'autre côté, ces dentelles, cette étrangeté, cette harmonie, cette élégance, j'en suis amoureux.
Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un autre souvenir que vous avez avec Notre-Dame qui est lié étrangement au petit prince de Saint-Exupéry.
Oui, quand il y a eu l'accident Rio-Paris, je dirais que les familles de toutes les personnes victimes de cet accident se sont retrouvées à Notre-Dame, qui est là encore lieu religieux, mais d'une certaine manière laïque, j'ose dire. Il y avait près de moi la famille très athée d'une des personnes que je connaissais très bien, Eric, qui est mort ce jour-là, qui était furieux parce qu'on n'entendait que des textes religieux. Il me dit, je vous en conjure, Jacques Lang, allez demander à l'archevêque qu'il lise Le Petit Prince. Alors j'ai pris le courage d'aller tout au fond et de dire à Monseigneur 23, je vous en conjure, lisez Le Petit Prince. Et il l'a fait.
Ça s'est fait. Ma théorie, c'est qu'on a tous une histoire avec Notre-Dame, qu'elle soit réelle, rêvée, fantasmée. Et parmi les plus fortes, me vient tout de suite à l'esprit celle de l'écrivain Sylvain Tesson qui est au téléphone avec nous. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette matinée spéciale. Pour vous, de quoi Notre-Dame était-elle le symbole? Notre-Dame près de laquelle vous vivez quand vous êtes à Paris?
Oui, je vis même à son pied. Je vis sous le commandement des tours de Notre-Dame. Ça, c'est un vers d'un des plus beaux chantres du miracle gothique de Charles Péguy. Je vis sous le commandement des tours de Notre-Dame. Moi aussi, comme Jacques Lang, je la vois tous les jours. je la contourne tous les jours et je ne la verrai plus. Je verrai maintenant un trou dans le paysage, je ne la verrai plus telle qu'elle était. Moi, elle me procurait deux mouvements, deux sentiments intérieurs. D'abord, l'admiration du miracle gothique, qui est un miracle à la fois de finesse ornementale et de poussée technique, de poussée appuyée. Les architectes ont réussi à compresser les immenses façades et tout à coup cette énergie de la poussée se résorbe dans la flèche qui monte vers le ciel. Et il se trouve que il y a 30 ans, je me suis beaucoup amusé pendant des nuits entières à escalader les monuments gothiques.
En toute clandestinité, évidemment.
Oui, en toute clandestinité, mais aussi en toute, avec beaucoup de soin de ne rien abîmer. Naturellement, je prenais le soin de ne pas laisser la moindre trace. Probablement, je ne sais pas si j'avais lu déjà à l'époque le poème des illuminations de Rimbaud. J'ai tendu mes cordes de clocher en clocher. Mais enfin, nous jouions avec des amis au funambule. Nous allions sur les tours, sur les clochers, dans les beffrois gothiques de l'Europe. Et à Notre-Dame, je suis monté 100 fois sur la flèche que je ne verrai plus jamais, que nous ne verrons plus. Nous sommes tous les orphelins. Et j'ai passé des moments de poésie immense et de prière, d'ailleurs. C'était une escalade qui était une prière. C'était une forme de c'était ma liturgie à moi. Je priais Dieu en grimpant et je montais comme ça. J'ai emmené beaucoup d'amis. J'ai emmené une amie alpiniste qui s'appelait Chantal Mauduit, qui était une célèbre himalayiste, qui a trouvé la mort peu de mois plus tard sur les pentes du Dolagiri en Himalaya. Je pensais toujours à elle lorsque je passais au pied de Notre-Dame. Et j'ai vécu d'immenses moments à la fois de fantaisie, de poésie. Il y avait quelque chose de littéraire, mais sauf que c'était incarné et que nous revenions au petit matin, les mains écorchées, les mains pleines de cambouis. J'ai souvent rencontré d'ailleurs des compagnons du devoir qui déjà à l'époque s'occupaient de l'étude ou de la restauration. Je ne sais ce qu'ils faisaient exactement dans la forêt, dans cette charpente inégalable.
Et vous avez rencontré aussi, Sylvain Tesson, des moments de rédemption, puisque cette cathédrale a joué un rôle crucial dans votre rééducation après votre accident. Gravir les escaliers de Notre-Dame, quel sens est-ce que ça avait pour vous ?
Oui, c'est-à-dire que moi qui m'étais tout de même comporté comme un chat de gouttière à Notre-Dame, j'ai recommencé à y retourner, mais de manière beaucoup plus officielle et beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus adulte et beaucoup plus intérieur finalement, avec moins de gaudrioles et un esprit moins plaisantin, en faisant moins le mariole. Je suis retourné là-bas après un grave accident que j'ai eu suite à une chute, et je suis revenu avec l'autorisation des bâtiments de France, qui m'ont très aimablement donné l'autorisation de gravir tous les jours la tour nord, puis la tour sud de Notre-Dame jusqu'au sommet. Je me souviens que les gardiens de Notre-Dame m'accueillaient très amicalement, m'aidaient à monter, et j'ai fait ma rééducation de tous les jours. J'ai monté, je crois qu'il y a 400, quelque chose comme 450 marches pour monter jusqu'au sommet des tours, et tous les jours je suis monté et je crois que j'ai vécu une forme de... J'ai senti que c'était une résurrection pour moi, physiologique, parce que c'était très bon pour mes muscles, morale, parce que je m'élevais, spirituel, parce que je ne m'élevais pas n'importe où, je m'élevais dans la grande chasse, le grand écrin de la chrétienté française, et je montais, et c'était une rééducation dans tous les ordres,
comme
dans
c'est
tous les ordres de l'être.
De terminer cette émission, mon cher Sylvain Tesson, sur cette idée de rééducation, évidemment, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je voudrais la terminer, donc, cette émission par la lecture d'un extrait de l'un de vos textes, Une très légère oscillation. Vous évoquez justement Notre-Dame de Paris et ses vertus rédemptrices. Je pense qu'il n'y a pas plus belle conclusion. Le gros vaisseau de pierre était là, encalminé sur l'île. Je n'avais qu'à monter en haut de ses tours pour retrouver mes forces. Dans l'escalier régnait la fraîcheur. L'odeur de la pierre aqueuse, métallique, n'avait pas changé depuis le XIIe siècle, date de la construction de Notre-Dame, cette senteur de fleurs mortes. Je crois à la mémoire des pierres. Elles absorbent l'écho des conversations, des pensées. Elles incorporent l'odeur des hommes. Les pierres sauvages des grottes et les pierres sages des églises rayonnent d'une force mantique. On est toujours saisi quand on pénètre sous une voûte de pierre qui a abrité les hommes. Chaque jour, Paris changeait. Le ciel imprimait d'imperceptibles nuances sur la ville. Paris prend mieux la lumière d'orage que la clarté d'azur. Tout ciel tragique grandit une ville. La capitale repose sous le commandement des tours de Notre-Dame, comme l'écrivait Peggy à la fin des Sept contre Paris. Si j'avais vécu dans le Paris gothique, dans la ville médiévale, imperméable à l'obligation de symétrie, familière des dragons, des tarasques et des rêves de Bosch, mon hémiplégie faciale serait passée inaperçue. Penser à Quasimodo ici me rassurait. Même un monstre a le droit à l'amour. Rien n'était perdu, me susurraient les gargouilles, toute bête à sa belle. La cloche sonnait, les vantaux des tours abattaient les tintements, une averse de métal tombait sur Paris. Cette année, le glas avait sonné à plusieurs reprises pour commémorer des drames nationaux ou lointains. J'avais demandé à l'agent de sécurité pour qui allait encore sonner le glas. Depuis 6 mois, un faisceau de catastrophes convergeait dans le monde avec une fréquence convulsive. « On va encore beaucoup l'entendre », m'avait-il glissé. On gagne à s'avouer pessimiste. C'est le moyen d'être prophétique. Chaque jour, je sentais les forces revenir. Il y avait quelque chose d'alchimique dans ces heures d'exercice, comme si le mystère, la puissance de Notre-Dame pulsait dans mes chairs. À présent, je suis remis, je marche droit, et je salue toujours les tours de Notre-Dame quand je flâne à leurs pieds. Je leur rends bien modestement par ces lignes le bienfait qu'elles m'offrirent. Sylvain Tesson, une très légère oscillation. Merci infiniment, Sylvain, d'être venu avec nous. Merci Jacques Lang aussi. Merci à François Goven pour tous ces éclairages et témoignages. Et puis merci à toute l'équipe de Boomerang qui m'a aidé à construire cette nuit, cette émission, cette vieille reine de nos cathédrales, comme disait Victor Hugo. En effet, tous et toutes ensemble, nous la rebâtirons.